Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les pertinentes, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on est tout à ça.
Voilà, nous recevons à présent Dr Fidel Benda, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes secrétaire exécutif national à l'ONG UCOPLUS. UCOPLUS, c'est...
L'Union Congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH.
Voilà, nous parlons aujourd'hui des droits des personnes vivant avec le VIH. La protection de ces droits s'avère importante, eu égard aux nombreuses violations de celles-ci, de ces droits, lesquelles violations minent les efforts entrepris pour la lutte contre le sida. Alors, quels sont les droits des PVV?
Il faut se rappeler d'abord qu'une personne vivant avec le VIH, PVV, c'est quelqu'un qui est malade. Et donc le premier droit, c'est le droit à la santé, le droit aux soins médicaux. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de soigner le sida avec les médicaments qu'on appelle les antirétroviraux ou ARV. Donc le premier des droits de PVV, c'est le droit à la santé, le droit à des soins médicaux de qualité.
Voilà, c'est le tout premier droit. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que ce droit est respecté partout à travers la République?
Il y a environ 270 000 personnes qui ont droit aux antirétroviraux. Les estimations que nous avons du programme multisectoriel, qu'il y aurait autour de 40 000 malades du sida qui ont droit à ce traitement, ça donne un taux de 15%. Lorsque 85% des malades n'ont pas le traitement qu'il leur faut, alors que ce traitement existe, je ne sais pas si on a des raisons d'être content, mais voilà.
85%
des malades du sida qui ont besoin du traitement antirétroviral n'ont pas accès.
Pourquoi? Parce que les médicaments ne sont pas disponibles.
Les médicaments
sont les bailleurs des fonds.
Il y a beaucoup de choses, mais le grand problème, c'est notre système de santé. Il faut renforcer le système de santé pour qu'il soit capable de prendre les nombreux malades du sida et malades d'autres choses.
Donc voilà, le premier droit, c'est le droit...
Le droit à la santé.
À la santé.
Le droit aux ARV.
Aux ARV, mais vous déplorez le fait que 85% des malades n'ont pas accès...
N'ont pas encore accès à ce traitement.
À ce traitement. Et est-ce qu'il y a quand même des espoirs? Est-ce qu'il y a quand même quelques... On peut espérer que dans les jours à venir, il y aura des changements?
Il faut se rappeler que c'est en 2002... que le traitement antirétroviraux a commencé au Congo, il y avait à peine 500 malades qui étaient sous traitement. Nous sommes 8 ans après 2010, il y a à peu près 40 000 malades. Dans une situation très difficile, la République démocratique du Congo fait un effort pour que tous les malades qui ont besoin de ce traitement aient. L'espoir est permis. Vous savez que la République démocratique du Congo a la capacité de produire localement les antirétroviraux avec la pharmakina.
À Bukavu.
À Bukavu. Donc, comme je dis, HIV en anglais, c'est-à-dire hope is vital, l'espoir est vital. Oui, si nous mettons un peu plus de sérieux, un peu plus d'organisation, ce n'est pas 40 000 malades que nous allons soigner, c'est peut-être 3 fois plus.
Mais si on peut produire sur place, mais qu'est-ce qui manque? Quel est le vrai problème?
Il faut une volonté politique. La pharmakina a besoin d'un montant qui tourne autour de 2 millions de dollars pour terminer le système d'accréditation auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Mais nos autorités n'ont pas encore compris les enjeux et débloqué les fonds nécessaires. Nous espérons qu'avec le nouveau budget de la santé, voilà des problèmes qui peuvent trouver solution.
Alors, quels sont les autres droits des PVV?
Le deuxième droit, après le droit à la santé, c'est le droit au travail. Dans un pays très pauvre, très endetté, beaucoup de PVV vont se retrouver sans travail. Donc ça, c'est un deuxième droit. Un troisième droit important, c'est le droit à la nourriture et à une alimentation. La nourriture, l'aliment, c'est le premier des remèdes contre beaucoup de maladies. Et j'insisterai sur un autre droit, c'est le droit à l'assistance juridique. Notamment, les femmes et les enfants vont se trouver, à cause du sida, on va leur ravir leur héritage. Et donc, ça, c'est aussi parmi les droits qui sont importants pour les personnes qui vivent avec le VIH et les personnes affectées par la maladie.
On va ravir l'héritage dès qu'on sait qu'elle est, elle est malade?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque le mari meurt, que la femme reste avec les enfants? Même en dehors du sida, vous savez comment ça se passe. C'est la famille qui prend les biens et tout ça. Et la famille ne prendra pas la femme parce que le VIH et les enfants qui sont là-bas, ils vont se retrouver du jour au lendemain dans la rue parce que leur papa est mort du sida.
C'est des cas qui, vous avez beaucoup de statistiques par rapport à ça. C'est des cas
à Kinshasa, par exemple, à Kinshasa, 40% des membres de mon 70% des membres de mon association sont des femmes. Et 40% de ces femmes sont des veuves. Le mari est mort du sida, la femme est restée avec les enfants. Je vous dis,
c'est dur.
Comme on dit chez nous, c'est pas si le collet à passe. La misère.
Sur misère.
Voilà.
Et puis, quels sont les autres droits? On est en train de passer en revue les droits des PVV.
Donc, je pense que le plus important, c'est ce que nous venons d'énumérer avec
vous. Oui.
Le droit à la santé, le droit au travail rémunérateur, le droit à l'alimentation et le droit à une justice.
Voilà, parlons par exemple du droit au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les PVV sont acceptés facilement?
Il y a des entreprises, je peux faire un coucou à la Bralima, qui est une des entreprises du Congo avec la meilleure politique en rapport avec le VIH. La Bralima est capable de soigner ses malades avec son propre argent. Oui, malheureusement, vous savez qu'il n'y a que 5% de la population active qui est au travail et nous n'avons pas eu écho de beaucoup de cas de discrimination au milieu du travail, mais ça existe.
Voilà, nous avons, il y a des auditeurs qui ont pu suivre de partout à travers le pays, qui interviennent pour poser des questions. Soupi Nyembo nous appelle de Kalima, au Manema. Bonjour. Soupi, bonjour. Voilà, Soupi n'est pas là. Soukis nous appelle aussi de Kindu. Bonjour.
Bonjour, je dis Kachama. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour aussi à l'auditeur de la radio Papi.
Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. J'aimerais demander à l'invité, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interner tous les gens qui vivent avec le VIH et SIDA pour éviter de ne pas contaminer les autres?
Merci, c'est une question intéressante, mais si vous prenez tous les malades qui ont le VIH aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est 1 300 000 personnes. À titre illustratif, toute la population du Gabon, c'est à peine 1 million de personnes. Toute la population du Congo-Brazza, c'est 4 millions de personnes. Donc, si vous voulez les interner, ça ne va pas éviter que les gens se contaminent.
Là, c'est pour les statistiques pour toute la République.
Pour toute la République, oui. Donc, isoler les PVV n'est pas une solution parce qu'on n'attrape pas le sida avec les gestes courants. C'est en faisant des rapports sexuels avec eux que vous aurez le sida. Donc, isoler les PVV n'est pas une solution. Des pays l'ont essayé, ça n'a pas marché.
Voilà, ça n'a pas marché. Vous voulez aussi intervenir, appelez-nous 081-890-63-94 ou vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Mais il semble que parlant du droit au travail, il y a certaines entreprises qui imposent par exemple des examens pour leurs des tests pour leurs agents, et dès qu'on découvre que vous êtes malade, on fait tout pour vous faire partir.
C'est une atteinte au droit. J'en profite qu'ils sont pas du job.
On vous a déjà rapporté ce genre de cas plusieurs fois?
Ah, pas plusieurs fois, parce que combien de Congolais peuvent travailler aujourd'hui, c'est déjà un problème. Mais ce sont des situations qui nous ont été rapportées, oui. La discrimination au milieu du travail existe. On va vous renvoyer parce qu'on pense que vous allez coûter cher, parce que vous allez mourir, etc., etc. C'est une atteinte aux droits de l'homme.
Voilà, c'est une atteinte. Alors, mais si, pour les cas de violation qui arrivent souvent, est-ce que d'abord ces droits sont vulgarisés? Et en cas d'atteinte, est-ce qu'il y a des poursuites par rapport à ça?
vous poser une question essentielle. Nous avons la loi portant protection des PVV depuis le 14 juillet 2008. Ça fait déjà plus de 2 ans que nous avons cette loi. Cette loi n'est même pas connue des PVV eux-mêmes. Elle est très peu connue des juristes et des avocats. Donc un grand effort doit être de vulgariser cette loi auprès des personnes importantes. À commencer par les malades eux-mêmes.
Mmh. Voilà. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes un secrétaire exécutif national à l'ONG UCOF. Qu'est-ce qui pose le problème, c'est à quel niveau?
Comme on dit toujours, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. L'information, vous êtes du domaine, j'apprécie les locaux que vous avez. Pour vulgariser l'information, il faut de l'argent. C'est un budget et on ne trouve pas toujours l'argent pour ce genre de travail. Les gens préfèrent mettre l'argent dans autre chose.
Mais au niveau de vos membres, la communication interpersonnelle, ça peut fonctionner?
Oui, nous avons même produit une brochure droits et devoirs des PVV. Nous avons produit des dépliants, mais le pays est grand. Quand vous pensez que dans ce pays, il y a 1 300 000 PVV, je disais, c'est 1,3 la population du Gabon. C'est le tiers de la population du Congo-Brazzaville. Les défis sont importants, mais... avec la grâce de Dieu et beaucoup de volonté, on essaie de faire ce qu'on peut faire.
Mmh. Mais vous avez votre organisation, il ne faut pas des représentations
dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, oui. Mais ce pays est immense.
Oui.
Comment, par exemple, de Kinshasa arriver au Maniema, ce n'est pas évident, avec un vol d'avion une ou deux fois par semaine. Ce sont les défis que nous avons. Ce pays est immense. Et les voies de communication sont celles qu'elles sont.
Mais est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent, ou cherchez-vous des partenaires qui peuvent vous soutenir par rapport à la vulgarisation?
Notre premier partenaire, c'est le gouvernement congolais.
Oui.
Et nous sommes heureux que le budget 2010 prévoit la part belle au ministère de la Santé. Nous irons toquer chez son Excellence Victor Makonge pour demander un budget et pouvoir vulgariser cette loi avec l'argent du pays, d'abord.
Voilà. Gervais Amouli nous appelle du Maniema. Bonjour Gervais. Voilà, Gervais est en ligne depuis le Maniema. Bonjour. Gervais, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité. Bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Oui, ma question, j'aimerais poser la question devant l'invité qui m'éclaircisse un peu sur la visibilité des droits des PVV par le gouvernement.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je veux dire parce que actuellement, on nous avait toujours parlé cela comme des soldats inutiles sur les droits des PVV. Ici, à Kindu, il y a des PVV que nous n'avons jamais vu respecter leurs droits. Il y a des PVV qu'on est en train de parler à n'importe qui, tout ça, des secrets qui ne sont pas vraiment gardés. Bon, fortement, il faut que cela ait quand même des mécanismes du droit qui peuvent être pris pour un PVV. Il faut que cela soit vraiment visible par les actes, disons.
Voilà, docteur Fidel.
Merci, mon cher ami du Kindu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les droits s'arrachent. Les droits peuvent être écrits, mais c'est une lutte de tous les jours pour faire que ces droits deviennent une réalité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut reconnaître aussi que si nous avons déjà 40 000 PVV sous cette mort, un effort a été fait par le gouvernement congolais dans des conditions parfois très difficiles. Mais les droits, mon frère, ils s'arrachent. C'est comme l'indépendance. Hein.
Même pour l'arracher, il faut les connaître.
Ah.
Maintenant, le problème, c'est que les PVV, c'est ce qu'il a dit au Maniema, ne connaissent pas leurs droits.
C'est le problème de la poule et de l'œuf. On commence par quoi? Il faut d'abord connaître ses droits.
Oui.
Il n'est censé ignorer la loi. Si vous connaissez vos droits, alors vous pourrez agir pour les revendiquer. Vous avez mis le point sur notre faiblesse, c'est la vulgarisation de cette loi auprès des communautés et auprès des PVV elles-mêmes.
Les PVV qui sont à travers le pays, peut-être qui vous suivent en ce moment, où doivent-ils aller pour...
Par exemple, dans chaque chef-lieu, il y a une coordination du PNMLS. le programme national multisectoriel de lutte contre le sida.
Mmh.
Dans chaque chef-lieu, il y a une coordination UCOP, Union Congolaise des Organisations des PVV. Ils peuvent aller à ce niveau, ils auront l'information sur les droits des PVV, mais aussi sur leurs devoirs.
Quels sont leurs devoirs?
Pour nous, nous les résumons en trois couples de devoirs. Le premièrement, c'est le devoir de s'informer pour pouvoir informer les autres. Les PVV sont les mieux placés pour capter l'information sur le sida et la distribuer. Le deuxième devoir, c'est que la PVV doit protéger sa santé pour pouvoir protéger la santé des autres. Et là, il y a notamment l'utilisation du préservatif lors des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels. Le troisième couple de devoirs, les PVV doivent se mobiliser, comme nous à travers le COP, et doivent mobiliser toute la société civile pour qu'en chambre, comme disent nos amis nos voisins de l'Est, en chambre, nous puissions faire reculer le sida.
Voilà. Fabien Mouila nous appelle depuis Bandundouville. Bonjour Fabien.
Oui. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
Oui, veuillez bien réduire le volume de votre poste radio, poste récepteur. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Fabien.
Ok. Alors, je voulais poser cette question à notre invité.
Non, veuillez d'abord réduire le volume
vous
de votre radio.
Vous venez de quitter quelques doigts des PVV.
Fabien, s'il vous plaît. Voilà, allez-y maintenant.
Notamment, ils ont droit à la santé, au travail, à la nourriture, etc. Et puis, ils n'ont pas droit au mariage. Alors, s'ils ont droit au mariage, avec quelles personnes ils vont se marier?
Merci, Fabien. Docteur Fidel.
Les PVV sont des êtres humains à part entière. Ils ont aussi droit au mariage. Avec qui ils peuvent se marier? Avec n'importe qui? On se marie avec la personne de son choix. Mais maintenant, votre question, est-ce qu'ils peuvent se marier avec des non-PVV? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se marier avec des PVV? Oui. Mais le grand problème, c'est qu'il faut le consentement éclairé du partenaire.
Mmh.
La PVV peut se marier avec n'importe qui, mais doit informer son partenaire de son état sérologique.
Moïse, on nous appelle des Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, comment ça va, je dis?
Oui, nous allons bien, Moïse, on vous écoute.
Oui, je disais que notre ami fidèle, médecin, semble être trop simpliste et à un sollicité qui s'est leur demandé d'isoler les malades. Et il a dit qu'effectivement, les raisons qu'il a données sont celles de vous, mais lorsqu'il dit simplement que ces gens, même si on les isole, les gens contactent seulement la maladie par les relations sexuelles, c'est trop simple ça. Parce que il y a non pas seulement les relations, c'est plein de moyens, plutôt de moyens de transmission, mais il y a la transfusion sanguine. Dans un pays où, comme le nôtre, où on ne fait que les transfusions, même sans demander l'avis du malade, les hôpitaux, on connaît ce qu'ils sont à travers tout le pays. Il y a aussi les outils. Un exemple, aux États-Unis, il y a quelques années, on avait découvert en faisant les enquêtes dans les banques de sang que les gens ont contracté par millions le VIH par transfusion sanguine. Pourquoi ils sont toujours trop simplistes? C'est vrai d'insister sur les relations sexuelles où ils conseillent les gens d'utiliser les préservatifs. Mais la transfusion sanguine, connaissent-ils au moins l'état de nos hôpitaux? Et puis, je voulais aussi ajouter que ces gens ont les droits comme les portugais. Dans les pays qui nous entourent, comme les pays de l'Afrique australe, on n'en fait pas un tabou. Vous croisez quelqu'un et vous dites, moi, je suis séropositif, je prends mes médicaments et ceci, cela. Et on les croit, ceux qui veulent entre eux se marier. Donc, on ne fait pas un cas pour ça. Les gouvernements ont pris des mesures pour cela. Je crois que notre ami doit quand même essayer de nous aider. Il n'y a pas de droit particulier pour eux. Ce sont des humains comme les postes qui... Même lui, là, il peut être en fait cette maladie. Pas nécessairement par relation sexuelle. Il y en a qui ont eu ça du sein de leur maman, par la transfusion sanguine, par des moyens autres que les relations sexuelles. Donc, on ne peut pas de cette maladie quelque chose qui fait intriguer les gens. Ils ont peur même de pouvoir aller se faire dépister.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez raison. On n'attrape pas le sida que par le sexe. Mais n'oubliez pas que 90% c'est par le sexe. Et on peut attraper le sida de sa mère ou par le sang. Mais c'est toujours le sexe qui est à l'origine. Donc, vous
il insiste sur la transfusion sanguine.
Et là, c'est une honte. 50% du sang transfusé en République démocratique du Congo n'est pas testé.
Voilà, 50%.
50%.
Mais c'est dangereux.
Et aujourd'hui, se faire transfuser en RDC est un risque. Et qui le paye, c'est encore les femmes enceintes et les enfants. Il a raison, mais je parle pour la grande communauté. Mmh. Si vous attrapez le sida, vous allez surtout l'attraper par les rapports sexuels. Ça, c'est connu, c'est 90% des cas. Mais raison de plus, c'est pour ne pas les isoler. Mmh. Parce que vous isolez les PVV, mais il y aura toujours des contaminations par le sang.
J'ai une information pour Moïse. Il sait pas que vous êtes aussi une personne vivant avec le VIH-SIDA.
Moi, j'ai 56 ans maintenant. C'est depuis l'âge de 45 ans que je sais que je suis séropositif. Oui, moi, j'ai le SIDA. Voilà.
Voilà. Jean-Cy Makouela nous appelle de Kikwit. Bonjour, Jean-Cy. Jean-Cy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, s'il vous plaît, Jean-Cy, veuillez éteindre votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone. Est-ce que nous avons un feedback à l'antenne? Veuillez éteindre votre radio, s'il vous plaît.
Oui.
Voilà, c'est fait. Posez maintenant votre question.
Bon, je voudrais juste poser la question à l'invité du jour. Bon, il y a de parler des droits pour les personnes vivant avec les VIH. Alors, ma question est celle-ci. Au lieu qu'ils puissent disposer des ARV pour ces personnes-là, ne peuvent-ils pas multiplier des efforts pour éradiquer directement la maladie dans la population?
Chers amis, aujourd'hui, si vous ne faites que de la prévention, c'est-à-dire éviter que ceux qui sont sains soient contaminés, vous avez fait la moitié des choses. Aujourd'hui, si vous ne faites que traiter les malades avec les ARV, vous avez fait la moitié des choses. Avant le sida, on disait « mieux vaut prévenir que guérir ». Avec le sida, il faut dire « mieux vaut prévenir et guérir ». Merci, grand frère.
Donc, c'est-à-dire, il y a deux volets. D'abord, il faut sensibiliser ceux qui sont pas, les sujets qui ne sont pas encore malades.
Ceux qui ne sont pas malades.
Et ceux qui sont malades,
on les soigne. Et c'est en faisant les deux que beaucoup de pays ont maîtrisé le sida, ou que par exemple l'Europe ou les États-Unis, le sida n'est plus un problème.
Mais on peut aussi les sensibiliser parce que certains, dès qu'il y a une personne constate qu'elle est malade, elle se dit bon, je ne veux pas mourir seule, je vais propager la maladie.
Ça, c'est de l'histoire ancienne. J'attendais ça dans les années 1900.
Aujourd'hui, on n'en parle plus.
Je n'ai plus l'impression. La plupart des personnes vivant avec le sida, comme moi, qui suis un homme respectable, nous respectons la vie. Et nous respectons la vie des autres.
Mais d'autres qui viennent d'être. Qui sont malades, ils découvrent leur état de santé.
Nous nous occupons d'eux et nous avons de moins en moins de comportements irresponsables. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, avant, ces gens faisaient notamment parce qu'ils n'avaient pas d'espoir. Il a le sida, il sait que d'ici 5 ans, ils vont mourir. Mais moi, j'ai le sida depuis plus de 12 ans. Je suis toujours vivant. Aujourd'hui, avec les ARV, vous pouvez vivre 30, 40 ans et mourir d'autre chose. Mmh. Aujourd'hui, il y a l'espoir de guérir cette maladie et ça rend les individus plus responsables vis-à-vis de la communauté.
Mmh. Alain Oumba nous appelle d'Écologie au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre question, Alain.
Bonjour, l'invité. Bon, je voulais savoir, l'invité a parlé qu'il y a les droits des malades, disons des citoyens. Bon, alors que nous voyons deux fois, ils sont traînés au champ de justice pour avoir délibérément, disons, infecté les autres, si je peux le dire. Bon, si effectivement il y a une infraction contre ceux-là qui délibèrent, donc qui propagent les sida, les sachant, mais ils va y côtoyer d'autres femmes. Bon, quels sont ces codes-là qui les condamnent à être arrêtés? Quel article, si au moins il y en a? C'est ce que je voulais savoir.
Docteur Fidel Ben.
Et je dois vous dire que quand vous contaminez volontairement les gens, il y a des dispositions du code pénal, notamment la loi sur les violences sexuelles. Quand vous transmettez volontairement une maladie, on va vous punir. Il y a des lois qui sont prévues pour ça. Mais nous disons, en matière de santé publique, mieux vaut prévenir que punir. Le code pénal ne va pas réduire les nouvelles infections. Parlons aux gens malades de façon responsable, pour qu'ils soient responsables de leur vie et responsables de la vie de leur partenaire sexuel. Oui, quand vous transmettez volontairement, il y a des tests de loi qui vont vous condamner. Mmh. Et nous allons vous amener les ARV en prison. Comptez sur nous pour... vous devez aller en prison si vous le faites volontairement.
Oui. Christian Bokessé nous appelle de Mbandaka. Bonjour Christian.
Bonjour Monsieur Chidika et bonjour à notre invité.
Allez-y, quelle est votre question?
Oui, merci Monsieur Chidika. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Puisque l'invité a dit les PDV ont droit à la vie, à la protection, à la santé.
Oui.
Maintenant, ma question est celle-ci. Dès qu'ils ont droit à la santé, à la protection, mais quelqu'un qui est déjà atteint par le VIH-SIDA, le fait de quitter les avis de celui qui n'est pas atteint, de dormir sur le même lit, d'utiliser la même cuillère, la même fourchette, est-ce que cela ne peut pas transmettre aussi ce tuyau ou ce virus à celui qui n'est pas atteint? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième est la suivante. Mais non, en dehors des relations sexuelles et la transfusion sanguine, quels sont d'autres moyens pour que la personne qui n'est pas atteinte puisse se proposer pour ne pas être attrapée par le VIH? Voilà, je vous remercie.
Merci, docteur Fidel.
Je commence par la fin. Le meilleur moyen de se protéger, aujourd'hui, avec le préservatif, on a le meilleur vaccin qui existe. Le deuxième vaccin, c'est celui que nous faisons maintenant avec nos amis de Radio Capi, c'est l'information. Comme j'aime le répéter, Kosuo le midi dit, Kosan la koeba et zali koufa endam. En matière de sida, za koufa endam, te koufa ya mobimba. Comme la Bible dit, mon peuple se meurt par manque de connaissances. S'il vous plaît, tu peux me rappeler sa première préoccupation?
Oui, est-ce que le fait d'utiliser le même ustensile, la cuillère, dormir avec quelqu'un qui est malade?
Les actes courants de la vie, comme maintenant je fais des missions avec mon frère, il n'aurait jamais le sida. Porter les mêmes habits, manger ensemble, utiliser les mêmes toilettes ne vous donne pas le sida.
Mmh.
Dans 90% des cas, c'est un rapport sexuel sans préservatif.
Et la transfusion sanguine aussi?
Dans 5% des cas, ça peut être la transfusion sanguine.
Les objets tranchants.
Dans 3% des cas, c'est la maman qui donne à son enfant. Hein? Et donc, mais insistons sur le plus important. Si aujourd'hui, moi j'ai attrapé le sida, je ne veux pas dire que je l'ai eu de ma mère. Ce n'est pas au sein de ma mère. Je ne veux pas dire que je l'ai eu par transfusion sanguine. Je n'ai jamais été transfusé. Si aujourd'hui, vous attrapez le sida, vous allez surtout l'attraper avec un rapport sexuel non protégé.
Voilà, pour terminer, docteur Benda, nous parlons des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA. On retient que les PVV ont les droits comme tous les autres personnes humaines.
Ce sont des personnes humaines à part entière.
Mmh.
Mais puisqu'elles ont été discriminées, stigmatisées, non illusoires, le législateur a voulu insister sur certains droits. Mais la première chose, les PVV sont des êtres humains comme tous les autres, créés à l'image de Dieu par le Créateur. Tous les droits des non-PVV, le droit au mariage, le droit au voyage, le droit au travail, sont des droits pour les malades du sida.
Voilà, merci bien à Dr. Fidel Benda, secrétaire exécutif national à l'ONG ICOP, l'Union Congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Merci et à la prochaine.
Merci et à la prochaine. Merci.
De lundi à vendredi, 18h15 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose une émission économique. Pour connaître les tendances du marché, les évolutions du cours de devises, les entreprises qui s'installent et leur impact sur la vie sociale, suivez Écho d'économie. Écho d'économie, c'est l'ensemble des actes à portée économique du pays ainsi que leurs effets sur la vie quotidienne. Écho d'économie, lundi à vendredi, 18h15 heure de Kinshasa.